Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonjour. Nous allons démarrer cette semaine dans Lectures en liberté par quelques petits textes de Boris Vian. Je voudrais pas crever. Je voudrais pas crever sans avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à cul nus dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent au nid truffé de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune sous son faux air de thune a un côté pointu, si le soleil est froid, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre. Sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zob dans des coinstos bizarres. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre, ou les sept maladies qu'on attrape là-bas, le bon ni le mauvais ne me feraient de peine si je savais que j'en aurais l'étrenne. Il y a aussi tout ce que je connais, tout ce que j'apprécie, que je sais qui me plaît. Le fond vert de la mer, où valsent les brins d'algues sur le sable ondulé, l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères, et les baisers de sel, que ceci, que cela, la belle, que voilà mon ourson, l'Ursula. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. J'en dis pas plus, faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé les roses éternelles, la journée de 2 heures, la mer à la montagne à la mer, la fin de la douleur, les journaux en couleur, tous les enfants contents et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes des géniaux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et des pensifs penseurs, tant de choses à voir et à entendre. Tant de temps à attendre, à chercher dans le noir. Et moi, je vois la faim qui grouille et qui s'amène, avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras de grenouille bancroche. Je voudrais pas crever, non monsieur, non madame, avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qu'est le plus fort. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort. Pourquoi je vis ? Pourquoi je vis ? Pourquoi je vis ? Pour la jambe jaune d'une femme blonde appuyée au mur sous le plein soleil. Pour la voile ronde d'un pointu du port. Pour l'ombre des stores, le café glacé qu'on boit dans un tube. Pour toucher le sable. Voir le fond de l'eau qui devient si bleu, qui descend si bas avec les poissons, les calmes poissons. Ils paissent le fond, volent au-dessus des algues cheveux, comme oiseaux lents, comme oiseaux bleus. Pourquoi je vis ? Parce que c'est joli. La vie, c'est comme une dent. La vie, c'est comme une dent. D'abord, on n'y a pas pensé. On s'est contenté de mâcher et puis ça se gâte soudain, ça vous fait mal. Et on y tient et on la soigne. Et les soucis, et pour qu'on soit vraiment guéri, il faut vous l'arracher, la vie. Il y avait une lampe de cuivre qui brûlait depuis des années. Il y avait un miroir enchanté et l'on y voyait le visage, le visage que l'on aurait sur le lit doré de la mort. Il y avait un livre de cuir bleu où tenaient le ciel et la terre, l'eau, le feu, les 13 mystères. Un sablier filait le temps sur son aiguille de poussière. Il y avait une lourde serrure qui crochait sa dure morsure à la porte de chêne épais, fermant la tour à jamais. Sur la chambre ronde, la table, la voûte de chaux, la fenêtre aux verres enchâssés de plomb, et les rats grimpaient dans le lierre tout autour de la tour de pierre où le soleil ne venait plus. C'était vraiment horriblement romantique. Quand j'aurai du vent dans mon crâne. Quand j'aurai du vent dans mon crâne, quand j'aurai du verre sur mes os, peut-être qu'on croira que je ricane, mais ça sera qu'une impression fausse. Car il me manquera mon élément plastique, plastique, tic, tic, qu'auront bouffé les rats, ma paire de bidules, mes mollets, mes rotules, mes cuisses et mon cul, sur quoi je m'asseyoie. Mes cheveux, mes fistules, mes jolis yeux cérules, mes couvre-mandibules dont je me pourléchois, mon nez considérable, mon cœur, mon foie, mon râble, tous ces riens admirables qui m'ont fait apprécier des ducs et des duchesses, des papes et des papesses, des abbés, des ânesses et des gens du métier. Et puis je n'aurai plus ce phosphore un peu mou, cerveau qui me servit à me prévoir sans vie, les os tout verts, le crâne venteux. Ah, comme j'ai mal de devenir vieux. Il casse le monde. Il casse le monde en petits morceaux. Il casse le monde à coups de marteau, mais ça m'est égal, ça m'est bien égal. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez. Il suffit que j'aime une plume bleue, un chemin de sable, un oiseau peureux. Il suffit que j'aime un brin d'herbe mince, une goutte de rosée, un grillon de bois. Ils peuvent casser le monde en petits morceaux. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez. J'aurai toujours un peu d'air, un petit filet de vie, dans l'œil, un peu de lumière, et le vent, dans les orties, et même s'ils me mettent en prison, il en reste assez pour moi, il en reste assez, il suffit que j'aime cette pierre corrodée, ces crochets de fer où s'attarde un peu de sang, je l'aime. Je l'aime, la planche usée de mon lit, la paillasse et le chalis, la poussière de soleil. J'aime le Judas qui s'ouvre, les hommes qui sont entrés, qui s'avancent et qui m'emmènent retrouver la vie du monde et retrouver la couleur. J'aime ces deux longs montants, ce couteau triangulaire. Ces messieurs vêtus de noir, c'est ma fête, et je suis fier. Je l'aime, je l'aime. Ce panier rempli de son où je vais poser ma tête, oh, je l'aime pour de bon, il suffit que j'aime un petit brin d'herbe bleue, une goutte de rosée, un amour d'oiseau peureux. Ils cassent le monde avec leur marteau pesant. Il en reste assez pour moi, il en reste assez, mon cœur. Un poète, c'est un être unique, à des tas d'exemplaires, qui ne pense qu'en vers et n'écrit qu'en musique, sur des sujets divers, des rouges ou des verts, mais toujours magnifiques. Si les poètes étaient moins bêtes. Si les poètes étaient moins bêtes. Et s'ils étaient moins paresseux, ils rendraient tout le monde heureux, pour pouvoir s'occuper en paix de leurs souffrances littéraires. Ils construiraient des maisons jaunes avec de grands jardins devant et des arbres pleins de oiseaux, de mirliflutes et de lisiots, des mésonges et des feux vertes, des plumuches et des picassiettes et des petits corbeaux tout rouges qui diraient la bonne aventure. Il y aurait de grands jets d'eau avec des lumières dedans. Il y aurait 200 poissons depuis le crousque au ramusson, de la libelle au pépamule, de l'orphie au raracurule, de la voile au canisson. Il y aurait de l'air tout neuf parfumé de l'odeur des feuilles. On mangerait quand on voudrait et l'on travaillerait sans hâte à construire des escaliers de forme encore jamais vue, avec des bois veinés de mauve, lisses comme elle sous les doigts. Mais les poètes sont très bêtes. Ils écrivent pour commencer au lieu de se mettre à travailler, et ça leur donne des remords qu'ils conservent jusqu'à la mort, ravis d'avoir tellement souffert. On leur donne des grands discours, et on les oublie en un jour. Mais s'ils étaient moins paresseux, on ne les oublierait qu'en deux.
Avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à cul nus, dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent, au nid truffé de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu, si le soleil est froid, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon sob dans des coins stop bizarres. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les sept maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me ferait de peine, si 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 je savais que j'en aurais les traînes. Et il y a aussi tout ce que je connais, tout ce que j'apprécie, que je sais qui me plaît. Le fond vert de la mer où valsent les brins d'algues sur le sable ondulé, l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères et les baisers de sel, que ceci que cela, la belle que voilà. Pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. J'en lis pas plus, faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas finir sans qu'on ait inventé les roses éternelles, la journée de deux heures, la mer à la montagne à la mer, la fin de la douleur, les journaux en couleur, tous les enfants contents et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes des géniaux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et les pensifs penseurs. Tant de choses à voir et à s'entendre, tant de temps à attendre, à chercher dans le noir. Et moi je vois la faim qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras. Deux grenouilles bancroches. Je voudrais pas crever, non monsieur, non madame, avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort.
En liberté, Denis Flagel.
Et donc après cet intermède musical, un texte de Boris Vian bien sûr, nous continuons avec Boris Vian en démarrant la lecture de L'écume des jours. Colin terminait sa toilette. Il s'était enveloppé au sortir du bain d'une ample serviette de tissu bouclé dont seules ses jambes et son torse dépassaient. Il prit à l'étagère de verre le vaporisateur et pulvérisa l'huile fluide et odorante sur ses cheveux clairs. son peigne d'ambre divisa la masse soyeuse en longs filets oranges, pareils aux sillons que le gai laboureur trace à l'aide d'une fourchette dans de la confiture d'abricot. Colin reposa le peigne et, s'armant du coupe-ongle, tailla en biseau les coins de ses paupières mates pour donner du mystère à son regard. Il devait recommencer souvent car elle repoussait vite. Il alluma la petite lampe du miroir grossissant et s'en rapprocha pour vérifier l'état de son épiderme. Quelques comédons saillaient aux alentours des ailes du nez. En se voyant si laid dans le miroir grossissant, ils rentrèrent prestement sous la peau et, satisfait, Colin éteignit la lampe. Il détacha la serviette qui lui saignait les reins et passa l'un des coins entre ses doigts de pied pour absorber les dernières traces d'humidité. Dans la glace, on pouvait voir à qui il ressemblait, le blond qui joue le rôle de Slim dans Hollywood Canteen. Sa tête était ronde, ses oreilles petites. Son nez droit, son teint doré, il souriait souvent d'un sourire de bébé et à force, cela lui avait fait venir une fossette au menton. Il était assez grand, mince, avec de longues jambes et très gentil. Le nom de Colin lui convenait à peu près, il parlait doucement aux filles et joyeusement aux garçons. Il était presque toujours de bonne humeur. Le reste du temps, il dormait. Il vida son bain en perçant un trou dans le fond de la baignoire. Le sol de la salle de bain, dallé de grès céram jaune clair, était en pente et orientait l'eau vers un orifice situé au-dessus du bureau du locataire de l'étage inférieur. Depuis peu, sans prévenir Colin, celui-ci avait changé son bureau de place. Maintenant, l'eau tombait sur son garde-manger. Il glissa ses pieds dans des sandales de cuir de roussette et revêtit un élégant costume d'intérieur, pantalon de velours à côtes vert d'eau très profondes et veston de calmant de noisette. Il accrocha la serviette au séchoir, posa le tapis de bain sur le bord de la baignoire et le saupoudra de gros sel afin qu'il dégorgeât toute l'eau contenue. Le tapis se mit à baver en faisant des grappes de petites bulles savonneuses. Il sortit de la salle de bain et se dirigea vers la cuisine afin de surveiller les derniers préparatifs du repas. Comme tous les lundis soirs, Chic venait dîner. Il habitait tout près. Ce n'était encore que samedi, mais Colin se sentait l'envie de voir Chic et de lui faire goûter le menu élaboré avec une joie sereine par Nicolas, son nouveau cuisinier. Chic, comme lui célibataire, avait le même âge que Colin, 22 ans. Et des goûts littéraires comme lui, mais moins d'argent. Colin possédait une fortune suffisante pour vivre convenablement sans travailler pour les autres. Chic, lui, devait aller tous les 8 jours au ministère voir son oncle et lui emprunter de l'argent, car son métier d'ingénieur ne lui rapportait pas de quoi se maintenir au niveau des ouvriers qu'il commandait, et c'est difficile de commander à des gens mieux habillés et mieux nourris que soi-même. Colin l'aidait de son mieux, en l'invitant à dîner toutes les fois qu'il le pouvait. Mais l'orgueil de Chic l'obligeait à être prudent et de ne pas montrer par des faveurs trop fréquentes qu'il entendait lui venir en aide. Le couloir de la cuisine était clair, vitré des deux côtés, et un soleil brillait de chaque côté car Colin aimait la lumière. Il y avait des robinets de laiton soigneusement astiqués un peu partout. Les jeux des soleils sur les robinets produisaient des effets féeriques. Les souris de la cuisine aimaient danser au son des chocs des rayons de soleil sur les robinets et couraient après les petites boules que formaient les rayons en achevant de se pulvériser sur le sol comme des jets de mercure jaune. Colin caressa une des souris en passant. Elle avait de très longues moustaches noires. Elle était grise et mince, illustrée à miracle. Le cuisinier les nourrissait très bien sans les laisser grossir trop. Les souris ne faisaient pas de bruit dans la journée et jouaient seulement dans le couloir. Colin poussa la porte émaillée de la cuisine. Le cuisinier Nicolas surveillait son tableau de bord. Il était assis devant son pupitre, également émaillé de jaune clair et qui portait des cadrans correspondant aux divers appareils culinaires alignés le long des murs. L'aiguille du four électrique, réglée pour la dinde rôtie, oscillait entre presque et à point. Il allait être temps de la retirer. Nicolas pressa un bouton vert, ce qui déclenchait le palpeur sensitif. Celui-ci pénétra sans rencontrer de résistance et l'aiguille atteignit à point à ce moment. D'un geste rapide, Nicolas coupa le courant du four et mit en marche le chauffe-assiette. « Ce sera bon ?» demanda Colin. « Monsieur peut en être sûr, » affirma Nicolas. « La dinde était parfaitement calibrée. »« Quelle entrée avez-vous préparée ?»« Mon Dieu, » dit Nicolas, « pour une fois, je n'ai rien innové. Je me suis borné à plagier Gouffé. »« Vous eussiez pu choisir un plus mauvais maître, » remarqua Colin. « Et quelle partie de son œuvre allez-vous reproduire ?» Il en est question à la page 638 de son livre de cuisine. Je vais lire à monsieur le passage en question. » Colin s'assit sur un tabouret au siège capitonné de caoutchouc alvéolé, sous une soie huilée assortie à la couleur des murs. Et Nicolas commença en ces termes. « Faites une croûte de pâté chaud, comme pour une entrée. Préparez une grosse anguille que vous couperez en tronçons de 3 cm. Mettez les tronçons d'anguille dans une casserole avec vin blanc, sel et poivre, oignons en lames, persil en branches, thym et laurier et une petite pointe d'ail. Je n'ai pas pu l'aiguiser comme j'aurais voulu, dit Nicolas. La meule est trop usée. Je la ferai changer, dit Colin. Nicolas continua. Faites cuire. Retirez l'anguille de la casserole et remettez-la dans un plat à sauter, passez la cuisson au tamis de soie, ajoutez de l'espagnol et faites réduire jusqu'à ce que la sauce masque la cuillère. Passez à l'étamine, couvrez l'anguille de sauce et faites bouillir pendant 2 minutes. Dressez l'anguille dans le pâté, formez un cordon de champignons tourné sur le bord de la croûte, mettez un bouquet de laitance de carpe au milieu, saucez avec la partie de la sauce que vous avez réservée. « D'accord, » approuva Colin. « Je pense que Chic aimera ça. »«
Je n'ai pas l'avantage de connaître Monsieur Chic, » conclut Nicolas, « mais s'il ne l'aime pas, je ferai autre chose la prochaine fois. Et cela me permettra de situer avec une quasi-certitude l'ordre spatial de ses goûts et de ses dégoûts. »«
Oui, » dit Colin, « je vous quitte, Nicolas, je vais m'occuper du couvert. »
Il prit le couloir dans l'autre sens et traversa l'office, pour aboutir à la salle à manger studio, dont le tapis bleu pâle et les murs beige rose étaient un repos pour les yeux ouverts. La pièce, de 4 mètres sur 5 environ, prenait jour sur l'avenue Louis Armstrong par 2 baies allongées. Des glaces sans teint coulissaient sur les côtés et permettaient d'introduire les odeurs du printemps lorsqu'ils s'en rencontraient à l'extérieur. Du côté opposé, une table de chêne occupait l'un des coins de la pièce. Deux banquettes à angle droit correspondaient à deux des côtés de la table et des chaises assorties à coussins de maroquin bleu garnissaient les deux côtés libres. Le mobilier de cette pièce comprenait en outre un long meuble bas aménagé en discothèque, un pick-up du fort module et un meuble symétrique du premier contenant des lance-pierres, des assiettes, les verres et autres ustensiles que l'on utilise pour manger chez les civilisés. Colin choisit une nappe bleu clair assortie au tapis. Il disposa au centre de la table un surtout formé d'un bocal de formol à l'intérieur duquel deux embryons de poulet semblaient mimer le spectre de la rose dans la chorégraphie de Nijinsky. Alentour, quelques branches de mimosa en lanière. Un jardinier de ses amis l'obtenait par croisement du mimosa en boule avec le ruban de réglisse noir que l'on trouve chez les merciers en sortant de la classe. Puis il prit pour chacun deux assiettes de porcelaine blanche croisillonnées d'or transparent, un couvert d'acier inoxydable aux manches ajourées, dans chacun desquels une coccinelle empaillée isolée entre deux plaquettes de plexiglas portait bonheur. Il ajouta les coupes de cristal et les serviettes pliées en chapeaux de curé. Ceci prenait un certain temps. À peine achevait-il ses préparatifs que la sonnette se détacha du mur et le prévint de l'arrivée de Chic.
Colin effaça un faux pli de la nappe et s'en fut ouvrir. « Comment vas-tu ? » demanda Chic. « Et toi ? » répliqua Colin. « Enlève ton imper et viens voir ce que fait Nicolas. »«
Ton nouveau cuisinier ?»«
Oui, » dit Colin. « Je l'ai échangé à ma tante contre l'ancien et un kilo de café belge. »«
Il est bien ?» demanda Chic.
Oh, « Il a l'air de savoir ce qu'il fait. C'est un disciple de Gouffet,
l'homme de la malle !» s'enquit Chic horrifié. Et sa petite moustache noire s'abaissait tragiquement.
« Non, ballot, Jules Gouffet, le cuisinier bien connu. »«
Oh, tu sais, moi, » dit Chic, « en dehors de Jean Solpartre, je ne lis pas grand-chose. » Il suivit Colin dans le couloir d'allée, caressa les souris, et mit en passant quelques gouttelettes de soleil dans son briquet.
« Nicolas, » dit Colin en entrant, « je vous présente mon ami Chic. »«
Bonjour, monsieur, » dit Nicolas.
« Bonjour, Nicolas, » répondit Chic.
« Est-ce que vous n'avez pas une nièce qui s'appelle Alice ?»«
Si, monsieur, » dit Nicolas, « une jolie jeune fille d'ailleurs, si j'ose introduire ce commentaire. »
Elle a un grand air de famille avec vous, dit Chic. Quoique, du côté du buste, il y ait quelques différences.
Je suis assez large, dit Nicolas, et elle est plus développée dans le sens perpendiculaire, si monsieur veut bien me permettre cette précision.
Eh bien, dit Colin, nous voici presque en famille. Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez une nièce, Nicolas.
Ma sœur a mal tourné, monsieur, dit Nicolas. Elle a fait des études de philosophie. « Ce ne sont pas des choses dont on aime se vanter dans une famille fière de ses traditions. »
Et dit Colin, « je crois que vous avez raison. En tout cas, je vous comprends. Montrez-nous donc ce pâté d'anguilles. »
« Il serait dangereux d'ouvrir le four actuellement, » prévint Nicolas. « Il pourrait en résulter une dessiccation consécutive à l'introduction d'air moins riche en vapeur d'eau que celui qui s'y trouve enfermé en ce moment. »
« Je préfère avoir, » dit Chic, « la surprise de le voir pour la première fois sur la table. »«
Je ne puis qu'approuver monsieur, » dit Nicolas. « Puis-je me permettre de prier monsieur de bien vouloir m'autoriser à reprendre mes travaux ?»«
Faites, Nicolas, je vous en prie. »
Nicolas se remit à sa tâche, qui consistait en le démoulage d'aspics de filets de sol, contisé de lames de truffe destinées à garnir le hors-d'œuvre de poissons. Colin et Chic quittèrent la cuisine.
Nous en avons terminé pour aujourd'hui et nous reprendrons la lecture de L'écume des jours de Boris Vian demain. Bonne soirée à vous.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.